Le US Open bat son plein à New York avec la tenue de ses matchs de premier tour. Évidemment, on a suivi avec beaucoup d'attention la victoire de Gabriel Diallo hier soir. Il y a eu cette défaite de Victoria Mboko, malheureusement, lors du premier tour du tournoi. Denis Shapovalov l'a emporté un peu plus tôt ce matin en trois manches. Et à l'heure actuelle, Félix Auger-Aliassime est en action. C'est 3-0 pour lui lors de la première manche contre Billy Harris. Je suis très content de le recevoir à l'émission. C'est pour une deuxième fois que j'ai la chance de lui parler durant ce retour des sportifs. C'est Richard Legendre, ancien directeur de la Coupe Rogers à Montréal, qui est avec nous. Salut Richard!
Bonjour Félix!
Richard, Félix mène 3-0 dans cette première manche, sauvé notamment 3 balles de bris. Sans nécessairement te parler de ce duel-là, tu t'attends à quoi pour Félix dans ce tournoi? On en a parlé il y a 2 semaines, mais on parlait un peu des difficultés qu'il avait lors de ses tournois du Grand Chelem cette année. Est-ce que pour toi, ça passe par une victoire convaincante au premier tour pour se donner un élan en vue des prochains affrontements au US Open?
Je pense que oui, parce que ça, c'est le genre de match, qu'on le veuille ou non, là, que Félix se doit de gagner. Billy Harris, il est 151e au monde. Il avait perdu au dernier tour des qualifications, mais il a été repêché comme lucky loser. Alors, c'est évident que là, Félix... il se doit de gagner ce match-là, mais je dirais que pour lui-même, c'est la manière avec laquelle il gagnerait aussi qui est importante pour se donner confiance pour le US Open, parce que par la suite, ben son tableau quand même intéressant. Il pourrait jouer soit contre mon fils, ça serait intéressant d'ailleurs de le voir jouer contre mon fils, ou le Russe, le Safiulin, et éventuellement, il serait du côté de Zverev. Alors, puis moi, Félix contre Zverev, j'aimerais bien voir ça, parce que, bon, Zverev, évidemment, c'est du grand calibre, mais la manière dont Félix est capable de jouer, moi, je suis un partisan que Félix se transforme là, en machine offensive, beaucoup vers l'avant, il a un bon service, un gros coup droit, il est capable de jouer à la volée, alors que Zverev, lui, il reste beaucoup derrière. Alors, mais ça, c'est dans 2 matchs, ça. Alors là, il faut vraiment que pour, justement, qu'il se sente à l'aise pour le reste du tournoi, ça lui prend une victoire convaincante. Puis dans le fond, quand on dit convaincante, c'est qu'il se convainc lui-même, là, qu'il prenne confiance dans son jeu, là.
Ouais. Dans le cas de Félix Auger-Aliassime, il a remporté ces 2 tournois-là en début de saison. Et c'est dans les tournois du Grand Chelem qu'il y a un peu plus de difficultés. On en avait jasé au courant des dernières semaines. Dans le cas de Denis Shapovalov, ça a été une victoire convaincante. Est-ce que tu aurais le même conseil à Denis que pour Félix? Parce que dans son cas, Denis Shapovalov, il y a des points à aller chercher dans les tournois du Grand Chelem. L'an dernier, il s'est incliné au premier tour au US Open. Cette année, il n'a pas passé le 2e tour d'aucun tournoi du Grand Chelem. Alors, cette victoire convaincante de ce matin en 3 manches, est-ce que c'est un peu le même conseil qu'à Félix,
oui? Oui, ben celle-là, elle va lui faire du bien. Je le regarde jouer, c'est drôle, hein? Des fois, Denis, ça a l'air laborieux, ça a l'air d'une tourmente, là, un match de tennis pour lui. Alors que aujourd'hui, ben ça allait de son côté, il avait l'air à l'aise. Écoutez, Denis Shapovalov, là, il frappe fort du fond du terrain. Là. Il peut très, très bien performer, lui, au US Open. Puis c'est des gars qui commencent à avoir de l'expérience. Là. Ils sont pas vieux, là, mais ils sont rendus à 25, 26 ans. Alors Shapovalov, il l'a déjà joué, le US Open. Et je pense que dans l'environnement, il est capable de se sentir de plus en plus à l'aise. Lui aussi, au prochain tour, ben c'est à sa portée. Là, actuellement, je sais pas si c'est terminé, mais c'est le Français Royer qui est 98e au monde qui était sur le point de gagner. Puis après ça, ben ça serait Sinner. Alors, pour Shapovalov, c'est comme un beau parcours ça aussi, parce que évidemment, s'il se rendait à Sinner, ben il n'y aurait pas de pression, là. Il ne se sentirait pas l'obligation de gagner, mais il se sentirait l'obligation de bien performer. Alors, je pense que dans les 2 cas, ils ont besoin de reprendre confiance en eux. Et encore une fois, il faut leur donner du temps. Ils sont encore quand même tout jeunes. Mais ils ont eu tellement des succès très tôt dans leur carrière que ça leur a mis une pression avec laquelle ils ont dû composer. Shapovalov, il était blessé. Il a dû revenir au jeu. Alors moi, je crois beaucoup dans ces 2 gars-là, comme Diallo d'ailleurs, on en parlera peut-être un peu, là, mais évidemment que c'est tout le monde est bon, là, rendu au US Open. Alors il y en a pas de match facile, mais de le voir gagner aujourd'hui, là, 6-4, 6-4, puis 6-0, je pense,
ouais.
Quand tu reviens au vestiaire, ça te donne confiance. Là. T'as les épaules moins lourdes. Là.
Ouais, tu te gardes de l'énergie aussi pour plus tard dans ce tournoi-là. On sait à quel point c'est éreintant de disputer autant de matchs, surtout des 3 de 5 chez les hommes. Alors, ouais. Et tu fais bien de le mentionner, Valentin Royer qui a gagné son match et qui sera le prochain adversaire de Denis Shapovalov. Alors, c'est encore un adversaire très prenable pour Chapeau avant d'affronter, dans son cas, un adversaire de taille. Mais tu parlais de Diallo, je voulais te lancer là-dessus. Hier, Diallo qui l'a emporté en 4 manches. On a vu qu'il a eu quand même, qu'il a été malade durant le match, qu'il a même eu des nausées après la rencontre. Dans le cas de Diallo, dirais-tu que c'est celui qui a le meilleur tableau en tant que tel chez les hommes?
Ben, chez nos Canadiens? Dire, mais moi, j'ai été impressionné par Diallo. Notamment hier, là, je l'ai regardé attentivement. Premièrement, 17 heures, ça aide, évidemment. Mais surtout, 60 coups gagnants. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il a pas l'air du tout intimidé, puis pas l'air incommodé ou stressé par le pointage. À des moments les plus serrés, les plus, disons, stressants, il déclenche des coups, notamment du coup droit, qui sortent de nulle part. Tu sais, en anglais, on dit un shot maker, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a beaucoup de cran, qui déclenche des coups gagnants. C'est fumant, c'est impressionnant. Puis oui, il a un bon service, là, puis il fait 6 pieds 8, mais Gabriel Diallo, là, c'est pas juste un service, là. Je vais vous dire que m'a impressionné. Puis on dirait que c'est un gars qui a pas de mémoire. Parce qu'il oublie vite le point précédent. Hier, à un moment donné, il a manqué 2 balles de manche, là. Ouais. Et ça aurait dû l'affecter sur le plan émotif. Pas du tout. Il a enchaîné. Alors, vraiment, là, c'est très impressionnant. Puis là, justement, ben, il va jouer contre l'Espagnol Munar. 44e au monde, quand même. Mais il l'avait battu l'année dernière au même US Open. Alors là, j'espère qu'il va avoir de la mémoire puis qu'il va se souvenir de qu'il a battu Munar pour se diriger vers Draper. Alors oui, mais la façon qu'il joue, en fait, je le dis, là, il joue, évidemment, il est dans les 33e au monde, mais je dirais qu'il joue même un peu mieux que son classement actuellement, ouais. Gabriel Diallo. Puis hey, lui, c'est vrai qu'il est pas vieux, là, 23 ans. Ça fait pas longtemps qu'il est sur le circuit professionnel. Il est bien encadré par Martin Laurando. Ça, c'est une super bonne tête de tennis depuis longtemps, Martin Laurando. Je le voyais hier très présent, très actif sur le bord du terrain. Alors vraiment, là, sur le plan mental, Diallo m'a beaucoup, beaucoup impressionné.
Ben, je vais te dire, Richard, j'ai écouté le match de Gabriel Diallo hier soir aussi. Et j'ai l'impression que c'est mon joueur chez les hommes, mon joueur canadien à surveiller parce que je le sens en confiance. Je sais pas, il y a quelque chose au courant des derniers mois. Il a remporté un tournoi un peu plus tôt également cette année. Je sais pas, je trouve que c'est un joueur très dangereux et c'est la carte cachée, je crois, chez les hommes entre Denis, lui et Félix qui pourrait s'aventurer plus loin dans ce tournoi-là.
Mais ce qui est merveilleux, Félix, c'est que, oui, un peu d'accord avec toi, mais en même temps, on a l'embarras du choix. On a trois gars qui sont dans les têtes de série puis qu'on surveille au US Open. C'est de toute beauté. Du côté féminin aussi, on pourrait peut-être parler un petit peu de Victoria, mais Leila est là également. Alors, c'est extraordinaire là, d'un point de vue du tennis québécois et canadien, parce que c'est Diallo, Félix, Leila, c'est du côté du Québec. Puis moi, Diallo, hier, ce qui m'a impressionné beaucoup, j'avais l'impression que c'était un joueur, un vétéran. Il se comportait comme un vétéran. Il était même capable de... Il n'était pas dans un grand stade, là, mais il y avait de l'ambiance, il y avait de la foule, puis son adversaire avait des appuis importants, mais mon Gabriel, lui, qui embarquait la foule avec lui, c'était de toute beauté. Mais ça, c'est pas facile de faire ça, là, de sortir un peu de ta bulle, puis d'interagir. Il faisait des claques dans les mains sur aux gens sur le bord du terrain qui l'encourageaient pendant le match, après avoir gagné, je pense, la troisième manche. Et ça, et être capable de revenir dans ta concentration après ça, waouh, chapeau, là, c'est beaucoup de maturité là, pour un jeune homme de 23 ans.
Parlons-en de Victoria Mboko, tu en as glissé un petit mot. Défaite hier au premier tour, elle qui a débuté le tournoi comme 22e tête de série au US Open. Mais on en avait jasé il y a 2 semaines, Richard, Victoria Mboko, de cette blessure. Possiblement dans cette demi-finale à Montréal contre Rybakina, elle a quand même gagné la finale par la suite contre Osaka, mais avait décidé de passer par-dessus le tournoi de Cincinnati. On l'a vu durant le match, l'être incommodé par son poignet. Et malheureusement, c'est une défaite, mais il faut le dire, contre une ancienne championne de Grand Chelem et une fille qui a déjà également été deuxième raquette mondiale, Richard.
Ouais, puis je suis content que tu dises ça, parce que là, Barbora Krejcikova, elle est 61e au monde, mais elle n'est pas 61e au monde.
Ouais.
C'est la championne de Wimbledon l'année dernière, en 2024, a même gagné Roland-Garros. Quand tu es capable de gagner et Roland-Garros et Wimbledon, ça veut dire que tu es une joueuse là, extrêmement complète. Elle avait beaucoup d'expérience. On voyait qu'elle savait comment jouer contre Victoria, ce qu'elle n'aurait peut-être pas su à Montréal. Alors, c'est ça qui est le nouveau défi déjà pour Victoria, c'est que maintenant, les joueuses la connaissent, la surveillent et se disent « OK, comment je vais la jouer? » Alors, ça change complètement la dynamique. Là. Alors, c'est entendu que Victoria, hier, là, elle n'était pas prête à 100%. Je pense que son entourage, Nathalie, Tosia et elle, ont tout fait pour qu'elle se prépare du mieux possible pour le US Open, mais elle n'était pas à 100%, ni physiquement, ni mentalement. Je la sentais pas avec la même assurance sur le terrain. Là, on voyait que elle avait joué à la maison, mais là, elle jouait à l'étranger. C'était plus difficile. Et c'est pas grave. Elle apprend, elle a 19 ans, je pense, aujourd'hui.
Ouais.
Et là, ce qui est important pour elle, c'est comment ils vont l'encadrer, moi, je dirais, pour l'automne. Il faut y aller avec prudence. Il faut qu'elle se donne du temps. De jouer avec un bandage au poignet au US Open, là, c'est pas l'idéal, mettons. Alors, je pense qu'il faut qu'elle se donne un automne plutôt réservé, qu'elle déjà en soit en mode 2026, de bien se préparer pour le début de la saison 2026 avec les internationaux d'Australie. Il faut qu'elle puisse retomber sur ses pattes, là, parce que ce qu'elle a vécu à Montréal, ça chamboule quelqu'un, là, surtout à 18, 19 ans.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Alors, je qu'elle avait vivre des hauts et des bas comme ça, Richard,
ben non,
je veux dire.
Ben non. Elle n'était pas prête physiquement puis mentalement. Déjà, ça aurait été difficile. Mettons qu'elle aurait été à 100% physiquement après la victoire de Montréal, ça aurait été déjà difficile pour elle, le US Open, d'enchaîner comme ça. Alors là, il reste, je pense, 2 tournois 1000 en Asie en septembre et octobre. Bon, peut-être qu'elle en joue un ou deux, mais moi, je lui donnerais un calendrier là un petit peu reposant cet automne et déjà de se donner des objectifs pour 2026. Parce qu'écoutez, elle est quoi? Elle est 23e au monde. Déjà de défendre cette position-là, puis de rester, je sais pas moi, dans le top 20 dans la prochaine année, ça sera déjà tout un accomplissement. Alors, on l'a dit, hein, c'est une pépite, c'est un bijou. Ben là, faut bien encadrer le bijou.
Oui, je veux terminer en te parlant de Leila Fernandez qui a remporté son duel de premier tour contre une compatriote canadienne, Rebecca Marino. Elle affrontera au prochain tour Elsa Jacquemot, la Française, alors que Elsa Jacquemot se situe au 91e rang mondial. Dans le cas de Leila Fernandez, elle a déjà cette expérience de finale au US Open en 2021. Tu t'attends à quoi pour elle?
C'est difficile à dire parce que il y a comme eu 2 Leila cette année, ouais. Cet été notamment. Gang Washington, qui était un exploit, là. Et après ça, Montréal, on sait ce qui est arrivé. Puis Cincinnati, ça n'a pas bien été non plus. Alors Leila, elle doit quand même être en appétit parce que elle était évidemment ravie de ce qu'elle a fait à Washington. Mais après ça, les 2 tournois 1000, Montréal et Cincinnati, elle doit du tout être contente de ça. Puis elle a énormément de caractère. Alors moi, je m'attends à ce qu'elle rebondisse. Là, je joue contre la Française d'ailleurs. Ça me permettra de dire, une Française qui avait gagné les internationaux juniors du Canada repentinés en 2019,
oui.
Pépé,
wow.
qui ont lieu présentement.
C'est ma Alors, ville natale. J'allais voir ça quand j'étais plus jeune à repentinés.
Ben, c'est ça. Ben, allez-y, parce que c'est les meilleures joueuses et meilleurs joueurs du monde dans 2-3 ans. Là. Puis ça a lieu chez nous. Écoutez, ouais. C'est la 38e édition, Pépé. 38e édition. C'était supposé être là pendant 5 ans. Moi, j'étais là au tout début. Et là, c'est 38 ans. C'est formidable. Ça coûte rien. Allez-y, Parc La Rochelle, allez voir ça. C'est de toute beauté.
Ah, c'est vraiment des beaux terrains. En plus, Richard, j'allais jouer là quand j'étais plus jeune,
oui.
Là, parce qu'on cherchait des terrains à Repentigny. Il y en a plusieurs beaux terrains à Repentigny. Mais je me rappelle d'avoir joué sur ces terrains-là avec des chums quand on était plus jeunes. C'était de toute beauté. Un gros merci pour ton temps encore une fois aujourd'hui. On va suivre les performances de nos Canadiens avec beaucoup d'attention. C'est 4-3 pour Félix Auger-Aliassime. Billy Harris est revenu quand même dans cette première manche. Alors,
okay.
Je te laisse regarder
ça.
Ce match-là.
On va aller voir
puis
ça.
On se rejoint bientôt. Merci
on
beaucoup, Richard.
Parle. OK, bye-bye.